RCF.
Bienvenue sur Odoro Kubeki, l'émission sur le Japon qui va vous surprendre. Chaque mois, Alizé et moi-même allons vous proposer sur RCF Nièvre de découvrir un peu de la culture japonaise.
Bonjour Gwen, bonjour à tous. Merci à vous de nous suivre pour ce nouvel épisode pour lequel, comme d'habitude, on s'est plié en quatre.
Je vois où tu veux en venir. Pour cette émission, on avait d'abord pensé à vous parler d'origami, l'art japonais du pliage de papier. Puis finalement, on a opté pour vous faire découvrir un autre art, pas si éloigné, mais très différent, et surtout beaucoup moins connu.
Et ça, c'est grâce à notre invité du jour que tu as la chance de recevoir en studio aujourd'hui et qui pratique justement le sujet dont on va parler. Mais avant de lui laisser la parole et de vous dévoiler de quoi il s'agit, on voulait vous parler d'une fête populaire au Japon en février.
Ah, je suis sûre que tu parles de Setsubon. C'est cette fête qu'on appelle la fête du lancer de haricots. Le 3 février, on lance des haricots sur les personnes déguisées avec un masque de démon, les Oni. Enfin, on peut comme ça chasser les mauvais esprits de chez soi, qui étaient arrivés l'an passé. Et on attire la chance, on célèbre aussi la nouvelle saison à venir, c'est-à-dire le printemps.
Alors, je pensais à quelque chose de moins traditionnel, de plus mercantile. Allez, pour tout le monde, je vous donne un indice musical. Dans les mangas, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Valentine Kiss de Sayuri Kokusho. Ça date de 86 et c'est le tube de la Saint-Valentin. Parce qu'au Japon, cette fête, c'est quelque chose. Comme pour Noël, c'est une fête qu'on retrouve partout dans le monde, mais au Japon, elle a ses propres règles.
C'est une fête déjà qui se passe en deux parties et qui n'est pas réservée qu'aux amoureux. Tout d'abord, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Mais pas forcément à leurs compagnons, copains, maris ou même à leurs crushs. Il y a différents types de cadeaux en fonction de la personne qui va le recevoir. Alors tout d'abord, vous avez le Onmei Choco. C'est celui que les japonaises vont offrir à la personne avec qui elles ont une relation amoureuse ou pour faire une déclaration d'amour à la personne qu'elles visent. Mais elles peuvent aussi en offrir à leurs amis et à la famille. C'est le même type de chocolat qu'on va avoir. Ce sont souvent des chocolats achetés dans une boutique, et plutôt de bonne qualité, ou encore mieux, des chocolats qu'elles auront fabriqués elles-mêmes.
Et puis, il y a le chocolat qu'on va offrir aussi à ses collègues masculins. On appelle ça le giri choco, ou chocolat d'obligation. Déjà, ça veut tout dire. Voilà, c'est pas du tout une question de sentiments amoureux, amicaux, ou quoi que ce soit, c'est de l'obligation sociale. Mais ça a tendance à évoluer quand même. Il y a des entreprises qui ont même décidé de bannir la pratique parce qu'elle est vécue comme une pression sociale par les femmes et par les hommes qui le reçoivent.
Ou qui ne le reçoivent pas. C'est assez important de savoir si on a ou pas eu du chocolat à la Saint-Valentin, puisque un mois après, donc le 14 mars, ce sont les hommes qui vont devoir chauffer le portefeuille et du coup offrir du chocolat. C'est ce qu'on appelle le « White Day », le jour blanc. Ce jour-là, on doit rendre l'appareil aux femmes qui nous ont offert un chocolat. Alors bien sûr, il y a les « Unmade Choco », mais aussi les « Giri Choco ». Sauf que, petite subtilité, c'est qu'en général, on va devoir offrir un chocolat qui a trois fois la valeur de celui qu'on a reçu. On vous laisse imaginer la note pour certains, et aussi la note sentimentale pour ceux qui n'ont rien reçu.
Effet papillon, théorie du chaos, mauvaise décision, défaite par chaos. Je me suis plié une fois de trop, comme du papier, sous tes ciseaux. Et tu es méticuleuse quand tu choisis tes mots. Je t'ai connue amoureuse, du moins c'est ce que j'ai cru. Mais t'as changé tes projets, je suis devenu ton homme objet. Tes désirs étaient mes ordres et j'ai fermé les yeux trop tôt. Et je suis tombé sur le pavé glacé quand t'es parti. Et je peux plus bouger, tu m'as plié. Origami, tu t'en es allé, cœur de papier glacé, ma Sibérie. Et tu m'as coupé, collé, tu m'as plié. Tu me préfères en chien ou en oiseau, apprivoisé entre tes mains. Oh, je me plierai, dis-moi juste en combien. Ce soir je me saoule, au moins 10 verres de trop. Je me renverse sur la foule, j'oublie comme on était beau. Toi dans ta robe rose, moi dans tous mes états. Ils font petit quelque chose et mon grand n'importe quoi. Et je suis tombé sur le pavé glacé quand t'es parti. Et je peux plus bouger, tu m'as plié. Origami, tu t'en es allé, cœur de papier glacé, ma Sibérie. Et tu m'as coupé, collé, tu m'as plié. Réassemble-moi, j'ai besoin de toi. C'est écrit sur moi, recto verso. Y a ton prénom sur et sous ma peau. Et je suis tombé sur le pavé glacé quand t'es parti. Et je peux plus bouger, tu m'as plié. Origami. Allez, cœur de papier glacé, ma Sibérie. Et tu m'as coupé, collé, tu m'as plié. Origami.
Vous venez d'entendre Origami, un titre du groupe français Amour. Amour avec un E. C'est paru en 2019 et on s'est dit que c'était parfait pour cette émission. Justement, on vous a parlé du sujet du jour qui était proche de l'origami mais qui n'en est pas, et c'est le Tsumami Zaiku. Pour en parler, on invite aujourd'hui Aurore, qui nous a accepté de nous rejoindre au studio de RCF Nièvre pour cette émission de Doru Kubeki. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue.
Un plaisir.
Tant mieux. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que le Tsumami Zaiku ?
Alors, c'est un artisanat qui remonte à peu près à 1785, et ça consiste à plier des petits carrés de tissu pour former des pétales et des animaux qui sont ensuite assemblés en fleurs.
D'accord. Et du coup, comment t'as découvert cette technique ?
Alors, j'ai découvert ça en 2016, après avoir acquis mon premier kimono. J'avais vu les parures des maiko, les apprentis geisha, portées dans les cheveux. C'est du Tsumami Zaiku, enfin des Tsumami Kanzashi, pour être plus précis. Et je me suis dit, c'est magnifique, j'en veux un. Les prix étant assez dissuasifs, il faut débourser en général 90 € pour une épingle à cheveux traditionnelle. Donc je me suis dit, bah je vais apprendre. Alors il m'a fallu plusieurs mois pour trouver le nom exact de la technique. Parce que le problème, c'est que en étant autodidacte, on trouve pas forcément la technique originale. Sur YouTube, par exemple, il propose une technique qui s'appelle le kanzashi, qui n'a rien à voir parce que ça veut dire épingle à cheveux, et qui est faite à partir de rubans de satin. Et la difficulté, c'est que souvent, les vidéos de Tsumami Zaiku ne sont pas traduites en anglais ou en langue étrangère. Ça reste du kanji, du hiragana et du katakana.
Et comment sont fabriqués techniquement les bijoux ?
Alors, je vais sur une base en carton. Je vais dessiner l'animal et ensuite je vais recouvrir de tissu et je vais plier sur les petits carrés de tissu que je vais plonger dans une colle de riz artisanale et ensuite assembler sur la base en carton.
Une colle de riz, c'est-à-dire ?
C'est de la farine de riz mélangée avec de l'eau et tout est chauffé au micro-ondes.
Oui, très simplement.
Et tu l'as fait toi-même ?
Je fais la mienne moi-même, mais il est aussi possible de l'acheter. La différence, c'est que celle qui s'achète directement en vente au Japon peut se conserver plusieurs mois et celle que je fais ne se conserve que quelques jours.
Et c'est assez solide, malgré tout, quand ça sèche ?
Alors, une fois que c'est sec, oui, c'est solide tant qu'on ne met pas de poids dessus. Mais le point faible de la colle de riz, c'est l'eau. Ça se dissout à l'eau.
Ah, donc on ne porte pas les bijoux en dehors de chez soi.
Exactement. À chaque fois que j'en porte un, je regarde toujours la météo avec une très grande attention.
Ça peut se réparer si il y a un petit accident ou du coup, il faut vraiment tout reprendre.
Non, c'est réparable. Si ça se décolle légèrement, il n'y a pas de souci.
Est-ce que c'est un art du pliage qui est plutôt grand public ? Est-ce que ça s'apprend facilement ? Alors, je sais que toi, maintenant, tu en fais beaucoup, donc il y a beaucoup d'heures de travail derrière, mais quelqu'un qui voudrait s'y mettre comme petit passe-temps, comme ça, est-ce qu'il faut quand même qu'il ait des bonnes bases ou ça peut être ouvert à tous les âges, à tout niveau d'habileté, on va dire ?
Alors, pour moi, c'est ouvert à tous les âges. Je donne régulièrement également des cours d'initiation. C'est dans un atelier partagé et la thématique change tous les mois. C'est-à-dire que même un débutant, au bout de 2 heures, il peut repartir avec une création artisanale et ils sont toujours tellement heureux et ils disent « c'est moi qui ai fait ça, j'en reviens pas ».
Et donc en plus toi tu pallies le côté vidéo un peu compliqué à trouver parce que tu vas l'expliquer pas à pas avec tes apprentis.
Exactement. Je voulais vraiment ce côté enseignement parce que je veux faire découvrir au plus grand nombre de gens le Tsumami Zaiku et je veux pas qu'ils rencontrent la difficulté que j'ai eue à chercher pendant des mois comment on fait.
Du coup, si je te proposais de faire des ateliers à Nevers avec la boutique de Dorokubeki, tu serais partante ?
Ah bah 100%.
Ah chouette. Alors j'espère que ça va vous intéresser. Il y a de grandes chances qu'on mette ça en place prochainement, parce que j'ai pu assister à un de ces ateliers et j'ai très envie d'apprendre personnellement. C'est vraiment très beau.
Et aujourd'hui, tu en as fait vraiment une activité professionnelle avec Yoake Tsumami. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, j'ai créé ma marque Yoake Bijoux juste au début du confinement. L'idée me trottait dans la tête depuis un moment, j'en faisais déjà depuis 2016 et j'osais pas encore me lancer. Et le confinement a été une révélation. Alors j'ai encore un autre emploi à temps complet en plus, mais je voulais vraiment pouvoir me dire j'ai créé quelque chose et j'arrive à le faire partager, à le vendre et... je ne garde pas tout pour moi.
Ce qui me fait te demander, au début tu as parlé d'un type de tsumami que les Maiko portent. J'ai eu l'impression que du coup il y en a plusieurs. Toi tu as une spécialité ?
Alors effectivement les Maiko portent des anakanzashi qui sont faits en tsumami zaiku. Le tsumami change tous les mois. Pour respecter la saisonnalité des fleurs. Mais aujourd'hui, on retrouve effectivement du Tsumami Zaiku beaucoup plus moderne. Tout le monde ne peut pas porter des anakanzashi, c'est quand même un petit peu voyant. Donc je décline le Tsumami Zaiku en des bijoux plus modernes, des boucles d'oreilles, des broches. Et ma grande spécialité, ce sont les animaux en Tsumami Zaiku. Je suis la seule à le faire en France.
Du coup, tu as des modèles ?
Je crée moi-même tous les modèles, je m'inspire, je regarde beaucoup Pinterest pour glaner des idées. Et après, je fais pas mal de croquis avant de faire de me lancer dans l'étape de création.
D'accord. Donc vraiment, si en France, on achète des animaux, on se tsumami zaiku, il y a de grandes chances qu'il y a ton nom derrière.
Exactement.
Et du coup, où est-ce qu'on peut te trouver ? Où est-ce qu'on peut trouver ton travail, te rencontrer, toi ?
Alors, on peut me rencontrer sur Bourges, à l'atelier des faiseurs où je travaille tous les deuxièmes samedis du mois. C'est également là que je donne les ateliers. Et prochainement, sur Nevers.
Avec grand plaisir. T'as aussi une boutique en ligne ou quelque chose ?
J'ai une boutique en ligne qui exporte en France et à l'international. Une grande majorité de mes clients sont à l'étranger.
Donc on a une vraie célébrité avec nous. Nous ne le savions pas.
J'aimerais bien développer un peu plus les ventes en France, mais pour l'instant, ma plus grande fan est malaisienne. Tous les ans, elle m'envoie des petits messages. Est-ce que ça, c'est à vendre ? Où est-ce que tu peux me fabriquer ça ? Récemment, là, je lui ai fait deux dragons pour le Nouvel An chinois.
Ok, donc comme les Maïko, tu vas suivre aussi les saisonnalités et les spécialités de l'année d'une certaine façon, quand tu crées ?
C'est devenu une habitude, mais ça varie assez souvent, oui.
Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais vous parler d'une anecdote culturelle ou historique sur le Japon. Je vais laisser Aurore nous raconter l'origine du Tsumami Zaiku. Je crois que le point de départ de cet art, c'est une histoire d'amour, c'est ça ?
Alors, il existe deux versions pour l'invention du Tsumami Zaiku. La première est très romantisée, parce qu'il s'agit du seigneur Yasuteru, qui était très amoureux de sa femme. Et après son décès, il ne pouvait se résoudre en fait à jeter ses kimonos. Le problème, c'est que ça prenait beaucoup de place. Il a eu donc l'idée en fait, de couper ses kimonos pour les plier et inventer le Tsumami Zaiku. Et la deuxième version, c'est qui est la version officielle aujourd'hui, c'est qu'il était passionné par l'artisanat et il passait son temps à inventer de nouvelles choses, et un jour il a pris un des kimonos abîmés de sa femme et il l'a transformé en Tsumami Zaiku. Ensuite, il a fait une décoration qui s'appelait les Sage Kusudama, qui sont des sphères décorées de fleurs fraîches. Il a remplacé les fleurs fraîches par du Tsumami Zaiku et il a présenté la décoration à l'empereur Gomomo Zono. Et ensuite, ça s'est répandu dans le palais impérial et les dames de la cour ont appris le Tsumami Zaiku. Il y a eu un regain en fait du Tsumami Zaiku au début des années 1900 à cause du décret du ministère de l'Éducation qui était en faveur de l'apprentissage de l'artisanat pour les femmes. Et il y avait une école spécialisée du Tsumami Zaiku avec un livre... Le seul livre aujourd'hui qui nous reste, qui date de 1914, qui s'appelle plus précisément « Le guide complet du Tsumami Zaiku pour l'artisanat des femmes ».
On le trouve encore ce livre ou pas ?
Il me semble qu'il est visible au musée du Tsumami Kanzashi à Tokyo.
On ne le trouvera pas en français en tout cas.
Non. C'est un des rares livres qui nous reste parce qu'à l'époque, tout se transmettait par oral et d'artisan à élève. Donc, il n'y aura pas de livre qui remonte à l'époque Edo.
Et du coup, comment s'est passé des femmes plutôt bonne société du coup de la cour à la tradition que les geishas et les maiko emportent, tu le sais ?
Alors, il n'y a pas vraiment eu de transition parce qu'en fait, ça s'est répandu dans le palais impérial. Et ensuite, le peuple a commencé à apprendre. Aujourd'hui, il reste des artisans diplômés qui sont autorisés, qui ont un diplôme spécifique décerné par l'État, mais ils sont moins d'une dizaine. Ils sont peut-être encore 5 ou 6, et ils ont tous un peu plus de 60 ans.
C'est le problème des arts traditionnels au Japon, qui ont tendance à se perdre et à pas trouver de nouveaux apprentis pour poursuivre l'aventure, quoi.
C'est surtout qu'en fait, pour avoir ce diplôme, il faut apprendre auprès d'un maître pendant une dizaine d'années. Et souvent, c'est assez dissuasif. Par exemple, moi, j'ai appris en un an. Et surtout que ça a un coût. Donc on peut pas se per... souvent ils peuvent pas on peut pas se permettre de passer 10 ans auprès d'un maître. Souvent maintenant il existe des livres japonais et c'est plus simple d'apprendre en autodidacte que auprès d'un maître.
Donc il y a toujours des pratiquants, mais plus des pratiquants, on va dire, officiels qui ont suivi la formation de base.
Exactement.
D'accord. Donc l'art ne va pas se perdre, mais il va évoluer.
Il évolue, oui. Effectivement, parce que les artisans, ils n'ont pas souvent d'apprentis, donc c'est rare, souvent c'est transmis de parents à enfants, mais il est rare que ça suive forcément au sein d'une même famille.
Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces explications et pour nous avoir fait découvrir le Tsumami Zaiku.
Un vrai plaisir aussi.
Et on a hâte. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'Alizée, un jour ou l'autre, viendra aussi découvrir tes ateliers. En tout cas, j'ai hâte de
J'attends les dates et je les note.
Eh bien, pour revenir et finir surtout cette émission, on a parlé de l'origami, on a parlé du Tsumami. L'origami, justement, ça va être un petit peu mon conseil, puisqu'on parle des apprentis, des spécialistes et autres. Il en existe une qui a comme surnom la reine de l'origami, c'est Tomoko Fuse, une dame d'une peu près 70 ans également, qui a longuement roulé sa bosse au Japon, qui a été reconnue et eu énormément de prix pour son œuvre, qui a une spécialité aussi d'origami modulaire. Donc ces origamis peuvent parfois vraiment changer de forme, mais aussi peuvent être dans la praticité. Je vous en parle aujourd'hui, c'est pas tant pour la citer que aussi parce que je me suis remise à l'origami, que j'avais apprise petite en autodidacte, qui est restée dans un coin de ma tête. Et il y a peu, j'ai découvert son livre qui s'appelle « L'art des boîtes en origami » chez Nuit Nuit. C'est un livre qui répertorie 100 modèles de boîtes, donc carré, rectangle, pentagone, hexagone, et j'en passe d'autres. Et j'aimais beaucoup l'idée de créer des objets, mais aussi utiles, puisque ces boîtes, on peut après les utiliser pour ranger certains objets, mais aussi, pourquoi pas, en faire des paquets cadeaux un petit peu originaux, ce que j'ai fait pour Noël. Donc voilà, mon conseil du jour, c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces arts du pliage japonais, vous avez les ouvrages de Tomoko Fuse aux éditions de Nuit Nuit qui sont hyper intéressants. Pour ceux qui, par contre, n'ont pas encore la praticité et voudraient débuter, il existe également plein d'autres ouvrages qui vont permettre de découvrir les bases. Ça, en France, pour le coup, on en trouve beaucoup.
Et c'est exactement ce qu'il me faut, parce que je suis une extrême débutante qui n'a toujours pas ouvert une petite méthode d'origami pour débutants qu'on m'a offert il y a un an. Mais après cette émission, je me dis, à un moment, il va falloir que je m'y mette, que je me lance. Merci à tous d'avoir écouté Odoro Kubeki. On vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci Gwen, merci Aurore.
Merci à
on
toi.
On vous dit au revoir.
Merci à toi aussi.
On vous dit au revoir avec Lipstick Message, Rouge no Dengon, de Yumi Arai, que les passionnés d'animation japonaise reconnaîtront comme musique que l'on entend au début du film Kiki la petite sorcière de Miyazaki, ainsi que dans Suzume de Makoto Shinkai. À bientôt!
Thank you. She got